Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour à tous. Si je vous parle de service à la personne, d'auto-entreprise, d'opportunités de carrière, de formation, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec une émission littéraire? Eh bien, on va vous l'expliquer, même si c'est vrai, notre cas est un peu particulier. Jean-Noël Cellier, bonjour. Vous êtes né au Mans, vous avez été chef d'entreprise, mais encore, qu'avez-vous fait un peu dans votre vie pour vous présenter un petit peu?
Bon, j'ai 80 ans, j'ai fait mes études secondaires à Sainte-Croix et au lycée du Mans parce que j'ai fait philo alors que cette année-là, il n'y avait pas de classe de philo à Sainte-Croix, et donc j'ai fait au lycée. Et ensuite, j'ai commencé des études de droit. Donc j'ai fait du droit.
J'ai vu que vous avez fait de la parce que j'ai un petit peu fouiné dans dans votre CV, vous avez fait de la gestion, vous avez fait le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM.
J'ai fait un troisième cycle au Conservatoire National des Arts et Métiers en matière de gestion de la formation. Parce que ma carrière, principalement, a été centrée sur la gestion du personnel. Par exemple, au Mans, pour donner un exemple, au Mans, j'ai exercé comme directeur du personnel dans une entreprise qui n'existe plus, qui s'appelait Rhénosol. J'avais été élu entre-temps président de la fédération professionnelle, la fédération des entreprises de propreté. Et j'ai été sollicité à de nombreuses reprises pour éventuellement créer mon entreprise. On m'offrait des capitaux, je connaissais le monde professionnel, je pense que je pouvais y apporter quelques idées nouvelles. Et donc j'ai accepté, donc j'ai créé Net Expansion, une entreprise créée par rachat successif, qui est devenue un groupe important, puisqu'on avait presque 4000 salariés.
Ah oui, quand même.
Oui, oui. Mais le siège n'était pas au Mans, le siège était à Paris. Donc j'ai créé cette entreprise qui s'est développée correctement, jusqu'au jour où les actionnaires majoritaires, je me suis engueulé avec eux, pour être honnête, désaccord sur la manière de mener l'entreprise, donc carrément ils m'ont viré.
Il faut regarder les choses en face.
Donc là, à ce moment-là, il a fallu que je me reconvertisse. Et donc là, j'ai créé une entreprise qui a fait du conseil en création d'entreprise. Donc j'ai aidé des jeunes créateurs à créer leurs entreprises, etc. Et puis je me suis mis à écrire une collection.
Voilà, alors là, c'est là qu'on commence à rejoindre l'esprit de cette émission, puisque c'est une émission littéraire. Quand vous devenez directeur de collection des éditions, alors vous allez me dire comment on prononce.
Walter Schreuer.
Voilà, je n'osais pas, je ne savais pas, parce que le W, si c'est à l'allemande ou si c'est à l'anglaise, la prononciation n'est pas la même. Walter Schreuer.
Voilà, c'est à l'origine, c'est un éditeur néerlandais, mais qui est présent dans toute l'Europe. Et qui est spécialisé dans les ouvrages professionnels.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui,
humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Laïra, laïra.
Donc je crée cette collection dans laquelle j'ai écrit 7 livres, je crois, axés sur le domaine de la propreté.
Voilà, c'est ça la collection. Enfin là, on est à la radio, donc les gens ne peuvent pas voir, mais c'est un système de présentation qui est la signature un peu de l'éditeur, oui, un peu comme pour Gallimard, où voilà, on a tout à chaque fois la même manière de présenter les choses.
Walter Schreuer est effectivement un éditeur d'ouvrages professionnels, donc j'aurais proposé, en fait c'est moi qui l'aurais proposé, de créer une collection pour développer le secteur. C'était l'époque où les services à la personne se créaient en France.
Ça commençait seulement. Enfin, c'était les débuts. C'est, oui, ça commençait à se développer, ouais, c'est plus précis.
Disons que je suis un peu à l'origine du truc.
Oui, alors
parce
voilà.
Que, parce que j'ai préparé, j'ai travaillé avec Roselyne Bachelot, qui à l'époque était présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, moi, je travaillais au CNPF, qui est devenu le MEDEF aujourd'hui, et avec Georges Drouin, qui était un des vice-présidents chargés des services. Et donc, il a fallu. L'idée était la suivante, c'était développer le service à domicile en France, qui était anecdotique, ou considéré comme une affaire de bourgeois, de gens riches, etc. Alors que c'est un indispensable pour permettre à une famille de pouvoir exercer sa double activité, lui et elle, avec leur propre métier. Donc, il faut quelqu'un. Donc l'idée, c'était de professionnaliser le secteur.
Alors, on va y revenir, parce qu'effectivement, c'est très important cet aspect-là dans votre carrière. Mais je voulais juste préciser, puisque c'est une émission sur les livres, qu'à titre personnel, vous commencez à écrire des livres en 1974, oui, oui, avec un guide d'information, formation continue et carrière, oui, puis le guide des opportunités de carrière en 1976. Oui. Et au début, vos ouvrages sont surtout consacrés, je dirais, aux ambitions professionnelles, justement, dont vous venez un peu de parler tout à l'heure. Oui. Pourquoi vouliez-vous écrire ce genre de livre? Il y avait un manque dans ce domaine-là ou...
C'est-à-dire que ces livres sont orientés sur le nettoyage industriel, qui a été une activité que j'ai cessée pendant pratiquement 15 ans, et puis une activité sur le service à domicile, puisque je suis un peu à l'origine du système, enfin j'y ai contribué, disons.
Ouais. Alors vous marquez une pause après ces ouvrages de 1974-1976, et vous changez de registre en 2017, donc avec les services à la personne, comment ça marche. Ça, ce livre est en fait lié à vos nouvelles activités, l'aide à domicile. Ce n'est pas vous au sens propre, mais vous jouez un rôle très important effectivement, puisque vous êtes un des contributeurs de la célèbre entreprise O2, qui est la plus grande entreprise d'aide à domicile d'Europe, si je ne me trompe.
C'est vrai.
Mais
c'est
le hasard. Sinon, la plus grande.
C'est le hasard. À l'époque, je vais raconter l'histoire. À l'époque, je travaillais, mon bureau était au CNPF, avenue Pierre Ier de Servi, et je vois arriver, ça devait être en 97, par là, dans ces eaux-là, je vois arriver un garçon qui s'appelle Guillaume Richard, qui à l'époque, ça devait être en novembre 1996, oui, c'est ça. Et il me dit, voilà, je m'intéresse au secteur des services à domicile. Et le hasard, mais vraiment le hasard.
C'est incroyable, hein. C'est souvent dans la vie.
J'habite Le Mans. Mais j'étais resté au Mans. Et à l'époque, il y avait à Alençon un institut qui existait, qui avait été créé par la Chambre de commerce d'Alençon, dont le directeur était un Sartois. Puis parallèlement, il y avait Jean-Michel Blacquer, qui était à l'époque délégué général de l'ADEMA, l'Association pour le développement économique de la région du Mans. Et Guillaume Richard cherchait un endroit où s'installer. Et l'ADEMA lui a proposé des locaux. C'est comme ça que l'entreprise a mis son siège et s'est installée au Mans.
C'est incroyable, c'est quand même, les gens ne sont pas forcément conscients, les sociétés d'aide à domicile, les associations d'aide à domicile, il y en a pas mal, oui. Mais aux deux, c'est j'allais dire monstrueux, non, c'est le leader, hein, il n'y a pas de doute.
Je voudrais bien, mais je peux bien. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitié, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable qui est un bon diable me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas.
Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout.
À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Et alors vous, quelle était votre mission finalement à O2 quand vous avez commencé à travailler avec eux à...
J'ai jamais
vous n'avez jamais travaillé pour eux. En fait, vous êtes un des fondateurs.
J'étais un conseiller, quoi.
Vous étiez un conseiller, d'accord.
Je leur apportais des idées, ils en faisaient ce qu'ils voulaient.
D'accord.
Mais, si vous voulez, j'étais un peu un spécialiste du secteur.
Vous connaissez bien le sujet.
Je connaissais le sujet, donc je leur apportais des idées. Donc ça, c'est le démarrage de deux sur Le Mans. Puis ensuite, j'ai pris ma retraite, je me suis revenu au Mans, puis voilà. Mais j'ai continué à avoir des contacts avec Guillaume Richard. Je suis même devenu actionnaire de deux à une époque. Bon, après, j'ai revendu mes actions parce que, comme j'ai construit une maison, j'ai eu besoin d'argent.
Il fallait payer,
je ne voulais pas m'endetter. Voilà. Donc, j'ai revendu mes actions pour construire cette maison. Voilà.
Donc ça veut dire que vous aviez ça fonctionnait bien, hein, parce que quand on peut se payer une maison avec ses actions, c'est que la société fonctionne bien.
J'ai pas tout payé avec.
Voilà, c'est positif en tout cas.
Oui, c'est positif. Ouais. Je suis resté en contact avec eux, et je vois toujours Guillaume Richard régulièrement.
En fait, ça a été une belle aventure, ça. C'est un des bons souvenirs de votre carrière.
Un des meilleurs souvenirs, c'est la direction du personnel de Renosol, qui était une entreprise de nettoyage industriel, qui avait une vision professionnelle et très professionnelle du secteur. Et moi, ça me convenait très bien. Professionnaliser les gens, leur permettre de devenir des gens compétents, organiser l'entreprise en conséquence, et c'était absolument passionnant.
En fait, ce que vous
et
dites...
comme l'entreprise avait une certaine notoriété, même à l'échelon national, et j'étais directeur du personnel, ce qui est un point important dans ce genre d'entreprise, un certain nombre de confrères sont venus me voir, et sont d'abord venus voir Marc Lépine, pour lui demander si je pouvais proposer ma candidature pour devenir président de la Fédération nationale. C'est comme ça que je suis devenu président de la Fédération des entreprises de propreté, avec la mise en place d'une nouvelle convention collective, de toute une filière de formation, etc.
En fait, c'est comme l'aide à domicile, le nettoyage, entre guillemets,
oui.
C'était là aussi quelque chose qui était nouveau. C'est-à-dire que, en fait, c'était presque scientifique, la manière de percevoir la façon de...
Ça existait déjà, mais c'est principalement sous une forme associative ou dans le cadre de collectivités locales, conseils généraux ou villes ou communautés urbaines. Et il a fallu la mise en place donc d'une nouvelle loi qui a ouvert le secteur aux entreprises, parce que le secteur n'était pas ouvert aux entreprises. Du moins, il y avait des distorsions de concurrence telles qu'une entreprise ne pouvait pas exister. Donc il a fallu d'abord modifier la loi, ce qu'on a fait avec le concours d'un certain nombre de députés et de sénateurs, ce qui permet donc aux entreprises qui se créent de faire bénéficier leurs clients d'une réduction d'impôt égale à 50% du montant de leur facture. C'est de là que démarre la véritable expansion du secteur des entreprises de services à domicile.
Ouais, et ça c'est important parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir se payer une maison de retraite, pour pouvoir gérer s'ils veulent rester chez eux. Là, c'est plutôt ça qui nous intéresse en l'occurrence. S'ils veulent rester chez eux, c'est très compliqué quand on a 90 ans. Moi, j'ai connu ça avec ma maman. C'est quelque chose de compliqué. Hein.
Alors parallèlement, donc, j'étais dans le secteur des services à domicile, dans le secteur de la propreté. Alors, je suis plutôt un homme des services, moi, un spécialiste des services. Donc, bâtir la formation, créer les conditions juridiques et fiscales pour que le secteur se développe, et ensuite conseiller, assister, aider ceux qui se créent.
Voilà, et donc la plupart de vos livres, c'est sur, dans ces domaines-là.
Enfin, puisque même un éditeur m'a demandé de diriger une collection, effectivement, un service à la personne, mais je n'ai pas écrit que ça.
On y arrive. N'allez pas trop vite.
J'ai écrit sur la formation continue.
Voilà.
J'ai écrit sur la recherche du premier emploi.
Exactement, parce qu'il y a aussi, il y a l'aspect aide à domicile, mais il y a aussi l'aspect profession en général.
Absolument.
Comment gérer sa carrière, etc. Absolument. Vous avez fait des guides pas mal comme ça autour de ça.
Je suis un simple jardinier qui n'a rien à vous raconter de bien malin. Je ne suis pas un beau parleur, on ne fait pas la cour aux fleurs, mais le jardin. On n'a pas besoin d'être beau, on n'a même pas besoin de mots, mais de penser. Pour cueillir quand elles sont écloses, les marguerites et les roses au cœur grisé.
Donc je passe un petit peu sur cette série de publications sur le sujet dans les années qui ont suivi. Il y a eu 2008-2009 autour de l'emploi, donc on vient de le dire, de la formation et même de l'auto-entreprise, pour passer à quelque chose de plus proche du livre tel qu'on l'imagine dans une émission comme la nôtre, à savoir l'histoire. Et là j'y viens, vous étiez plus rapide que moi, vous avez publié effectivement en 2018 une histoire de, je cite, l'école Sainte-Croix, de l'école Sainte-Croix à l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix, intitulé 1836-2018, 182 ans d'histoire. Alors vous avez été élève de cet établissement, vous l'avez dit en tout début d'émission, ceci explique cela évidemment. Est-ce qu'il y avait un manque sur l'histoire de cette école ?
Il y avait des archives, mais il n'y avait rien qui avait été construit.
Vraiment développé.
Il y avait un magazine trimestriel de l'établissement qui publiait régulièrement des informations
historiques notamment, etc.
Mais il n'y avait jamais eu aucune recherche de fait. Donc moi je me suis attaché à ça, j'ai fouillé dans les archives et j'ai écrit un livre qui a été publié
aux éditions de la Rainette, si ma mémoire est bonne.
Exactement, donc c'est l'édition de la Rainette, c'est le groupe Le Lièvre, et donc je l'ai édité. Mais c'était juste avant la fusion, puisque Sainte-Croix a fusionné
Notre-Dame.
Avec Saint-Charles.
Saint-Charles, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais.
Les jésuites sont partis, les jésuites qui avaient une réputation très importante, justifiée d'ailleurs en matière de pédagogie. Et donc j'ai écrit cet ouvrage. Voilà.
C'est marrant ce que vous dites, parce que on entend souvent beaucoup de critiques sur l'enseignement des jésuites, mais en même temps, tous les anciens élèves qui ont été dans des écoles de jésuites disent après, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, oui, d'avoir eu cette éducation, certes un peu sévère,
oui,
mais ça m'a boosté pour faire des choses dans la vie. Donc finalement, peu de discipline, c'est pas forcément mauvais, c'est ça?
Mais c'était une discipline qui était aussi très ouverte, puisque moi j'ai connu le système des équipes. On avait un chef d'équipe, on était divisé par petits groupes de 10 à 12 personnes autour de thématiques particulières. Il y en a qui faisaient de l'imprimerie, il y en a qui faisaient de l'aide aux personnes âgées, il y en a qui faisaient de la peinture, il y en a qui faisaient, etc. C'était très varié. On consacrait deux après-midi par semaine à ce genre d'activité.
Donc ça pouvait déclencher des vocations.
C'était formateur, parce que en fait on expérimentait une vie collective autour d'une organisation.
C'est ça, une vie la communauté qui fait la force d'une société.
Alors il y a évidemment dans cet établissement, il y a des élèves qui sont plus célèbres que d'autres.
Alors voilà, bah, vous avez anticipé ma question. Il y a eu, voilà, on parle souvent du Britannée où il y a eu énormément d'élèves célèbres, mais alors à Sainte-Croix, il y a du monde. Hein. Alors vous pouvez me citer quelques noms marquants un petit peu.
Je pourrais en citer un qui est alors, hyper connu. C'est Antoine de Saint-Exupéry.
Ah bah oui, Antoine de Saint-Exupéry, incontournable.
Un des auteurs les plus lus dans le monde. Alors pourquoi est-il venu au Mans? Parce que son grand-père avait pris sa retraite au Mans, et sa mère, qui était veuve, à ce moment-là, est venue au Mans aussi. Donc il a été élève de cet établissement-là.
Oui, de l'âge de 9 ans jusqu'à une quinzaine d'années, hein, à peu près, ouais. Donc, oui, cela dit, il y a encore des gens qui le savent pas forcément, hein, ça.
C'est possible, oui. Ouais. Mais il n'y a pas que lui, hein,
Alors, il y en a eu d'autres, oui. On en a un qui est encore vivant, par exemple, Olivier de Kersauzon.
Absolument, oui, tout à fait.
Alors, qui est breton, mais né à Bonnétable.
Oui, absolument.
Ça, c'est le côté amusant, qui ne l'amuse pas toujours, d'ailleurs, quand on lui en parle.
Olivier de Kersauzon est connu parce que du grand public, mais il y avait son frère aussi, Tanguy de Kersauzon, qui était amiral, qui était chef d'état-major de la marine.
C'était un vrai amiral, lui, parce que souvent à la radio, on a...
Un vrai de vrai, lui.
À la différence d'Olivier de Kersauzon, qui a été, par contre, un navigateur avec Tabarly, très célèbre. Absolument. On a eu aussi des gens qui sont un peu moins connus, mais on a eu, par exemple, moi j'avais vu ça, des gens qui ont été dans l'escadrille Normandie-Niémen, par exemple.
Oui, il y en a pas mal.
Ça, c'est moins connu, déjà.
Et puis surtout, aujourd'hui, il est toujours vivant, Jean-Yves Empereur.
Ah, Jean-Yves Empereur, le célèbre archéologue,
égyptologue,
qui a redécouvert le phare d'Alexandrie.
Alors, il y en a d'autres, dans le domaine politique, il y a François Fillon.
Ah, bah oui, qui n'était pas un élève très sage, dit-on.
Il y a Jacques Maury, ancien maire du Mans, sénateur, Michel Dallière, qui était sénateur aussi.
Ouais.
Et il y a pas mal de militaires, le général de Boissieu.
Ah bah, c'est des armées. On a aussi un prix, un académicien qui est toujours vivant.
Gabriel de Breuil. Oui, qui est un énarque.
Il est énarque, mais il est académicien aussi.
Absolument, tout à fait.
Okay. Voilà, on a quand même quelques personnages. On a le Lièvre qui était un élève en même temps que Saint-Exupéry, qui lui a quand même joué un rôle dans les assurances.
Ah non, c'est pas Lelièvre. Ah oui, c'est Lelièvre, c'est vrai.
Ouais, voilà. Hein,
Jean-Marie Lelièvre.
Jean-Marie Lelièvre, qui a quand même été...
Le créateur des MMA.
Aujourd'hui, oui, le nom d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et qui a joué un rôle avec les 24 heures du Mans aussi, puisqu'il a été... Ouais, voilà. On en a quelques-uns, là, quand même, pas mal. Alors ça, si les gens, ça les intéresse, ils pourront acheter votre livre, qui coûte combien, tiens, entre parenthèses, on va profiter pour le dire.
Je crois qu'il coûte 18,50 €.
Voilà, donc s'ils veulent en savoir...
Alors, ils peuvent s'adresser dans les librairies du Mans.
Voilà.
Ou directement aux éditions de la Reinette.
Aux éditions de la Reinette. Ok, très bien. Alors, ils tapent éditions de la Reinette sur Internet, ils vont trouver les coordonnées.
Moi, je pense, mais ils peuvent l'acheter, d'ailleurs, par Internet...
Oui. Sur les sites de vente comme Rakuten, Amazon, etc. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, écoutez, on va être obligé d'en rester là parce que c'est la règle du compteur. Je vous remercie beaucoup et puis on se retrouvera peut-être quand vous serez d'accord pour révéler quel est votre projet. Pour l'instant, on laisse planer le mystère. Merci à vous. Je crois que c'est la première fois que nous invitons un directeur de collection dans cette émission. Mais je pense aussi que c'est, à ma connaissance, le seul cas sartois, si l'on accepte quand même celui de Paul Otchakowski-Laurence, qui était sabolien, lequel a dirigé des collections chez Hachette et Gallimard, avant de lancer sa propre maison d'édition, POL, à vérifier s'il y en a d'autres. À ma connaissance, ce sont les deux seuls sartois qui ont été directeurs de collection. Voilà, merci à vous, et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Au revoir.